Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ? Nous allons donc essayer de recevoir nous-mêmes cette question de Jésus qui nous est adressée à chacun, chacune d'entre nous. À chaque fois que le Seigneur parle à Pierre, il le fait à toute l'Église. Pierre n'est pas simplement quelqu'un qui est au-dessus, il est un de l'Église en qui Jésus montre ce qu'il veut donner à tous. Ce qu'il donne à Pierre, il le donne à tous. Plusieurs ont été surpris qu'on prenne comme thème d'une retraite cette question « M'aimes-tu ?» Et de fait, c'est surprenant que Jésus nous demande de l'aimer. Ce matin, je voudrais surtout relire avec vous le passage de l'Évangile où cette question est posée directement à Pierre. Ce n'est pas dans n'importe quelle situation ni à n'importe quel endroit que Jésus a posé cette question. Il l'a posée, nous dit l'Évangile, après avoir mangé le pain. Après avoir déjeuné. Nous prenons ce texte dans le chapitre 21 de l'Évangile selon saint Jean. On se souvient qu'après la résurrection, Pierre a dit aux autres disciples « Je pars à la pêche, je vais pêcher » et les autres disent « Nous venons avec toi ». Venir avec Pierre, c'est être en communion avec toute l'Église, c'est ne pas vouloir trouver notre chemin sans les autres. Venir avec Pierre, c'est aussi vivre de la catholicité de l'Église. On se souvient que leur travail n'a pas été fructueux ce jour-là, Ils ont passé la nuit sans rien prendre et qu'au matin, Jésus était là en leur demandant « Les enfants, avez-vous du poisson ?» À cette question, les disciples auraient pu trouver des justifications, auraient pu se justifier de ne pas avoir pris de poisson ou bien pire, ils auraient pu accuser les autres de les avoir empêchés d'être là où le Seigneur leur avait demandé d'être, etc. Non, ils ne disent rien d'autre que la vérité. Non. La porte d'entrée dans l'amour, c'est évidemment la vérité. Il n'y a pas d'amour sans être nous-mêmes vrais. Donc ils leur disent qu'ils n'ont pas pris de poisson. Et il leur dit « Jetez le filet du bon côté » de l'Église, à droite de la barque. Et on connaît la suite. Les filets étaient insuffisants pour recueillir la multitude des poissons qui avaient été pris. Et alors tout le monde, en tout cas tous les disciples, sans même poser la question, savent que le Seigneur est présent. Ils savent qu'il est là. C'est Jean, le disciple bien-aimé, qui le premier dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » La confession de foi. C'est lui. Il est présent. Et alors on connaît que un repas avait été préparé avant même ils amènent quoi que ce soit. C'est pas l'auberge espagnole où chacun trouve ce qu'il amène. Non, c'est mieux que l'auberge espagnole. Le repas est préparé par le Christ. Il y a un feu de braise sur le rivage. Il y a du poisson posé dessus et du pain. faut s'arrêter un moment sur cette image tellement belle, cette limite entre la mort et la vie. La mère, et on le sait bien en France aujourd'hui, en tout cas les habitants de l'Aude le savent très bien, que le tumulte des eaux amène avec lui la mort. Et dans le langage biblique, l'océan, la mer, est d'abord le signe de la mort. Donc la limite de la mort, c'est le rivage. Cette limite toute fine qui trace le commencement de la vie et le berceau de la vie. Le sable au rivage des mers. Donc ici, le feu, le poisson et le pain. Encore une fois, ce n'est pas le poisson que les apôtres ont pris. Il y a déjà du poisson posé dessus, avant même que les disciples aient amené leur propre poisson, j'allais dire. Donc, c'est après avoir mangé que le Seigneur a posé cette question tellement simple, mais inattendue à Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ? Ils avaient donc mangé. Qu'avaient-ils mangé ? Ils avaient mangé le pain que Jésus lui-même avait disposé sur le feu. Le pain, ce pain-là en tout cas, était déjà une communion d'amour avec lui, Jésus, parce que ce pain venait de lui, et que lorsqu'on aime, tout ce qui concerne l'aimer est aussi aimé par ceux qui aiment. Je veux dire que ce serait un amour dans lequel les soucis, les joies de l'être aimé ne seraient pas les soucis et les joies de celui ou de celle qui aime. Quant au poisson, c'était celui que Jésus aussi avait disposé sur le feu. On ne sait pas si à ce poisson amené par Jésus lui-même se sont joints ensuite les autres poissons de la pêche miraculeuse, peut-être. Souvenons-nous que les poissons, en tout cas de la pêche inespérée, venaient d'une parole de Jésus: jetez les filets à cet endroit-là, acceptez de travailler là où je vous montre qu'il faut travailler. Les disciples savaient bien que ce poisson qu'ils avaient pêché, au fond, ne venait pas d'eux. Jésus leur avait montré lui-même le lieu pour recueillir dans un filet, dans la charité, les enfants de Dieu dispersés. Et c'est donc après avoir pris ce pain et ce poisson, dans cette circonstance et à cet endroit, que Jésus demande à Pierre, ou plutôt il n'a pas dit Pierre, mais Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Première remarque, Jésus savait parfaitement bien que Pierre l'aimait. Qu'il l'aimait avec une immense ardeur. Ne venait-il pas de se jeter à l'eau à la rencontre de Jésus ? Ne venait-il pas de bousculer la mort ? En tout cas, de bousculer les obstacles qui pouvaient être mortels pour se précipiter vers Jésus ? Pierre ne venait-il pas de tirer lui-même un énorme filet pour ramener à terre le produit d'une pêche dont Jésus était le responsable? Je reviens encore sur ce bon côté de l'Église, si important aujourd'hui de rappeler. Ce bon côté, c'est là où la foi devient active. Ce n'est pas simplement là où la foi est professée, mais là où elle devient active. Là où ceux et celles qui croient obéissent à la parole qu'ils entendent. là où des hommes et des femmes sont attirés, parce que règne à cet endroit une véritable obéissance, une humble et joyeuse obéissance. Jeter les filets à droite de la barque. Donc Jésus savait que Pierre l'aimait beaucoup. Mais Jésus ne dit pas simplement « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» ou comme on dirait pour le pape « Est-ce que le pape aime le Christ ?» Non, mais « Georges Bergoglio, est-ce que tu m'aimes ?» Voilà. Chacun de nous aussi peut entendre le Seigneur lui demander avec tes fibres humaines, dans ce que tu es vraiment, pas seulement dans la fonction que tu exerces, ou la vocation que tu as dans l'Église, comme marié, comme consacré, prêtre, religieuse, non, pas seulement, mais dans tes fibres de nature, est-ce que tu m'aimes ? Jésus appelle Pierre par son nom commun, son nom qui est issu d'une lignée, fils de Jean. Pour un juif, évidemment, ça paraît presque évident. Un juif ne se reconnaît jamais sans son père et sa mère, enfin, sans sa lignée. Il est toujours le fils d'eux. Ça, évidemment, ça travaille la conscience occidentale qui a été si blessée à l'endroit de sa relation avec le Père. Et ça continue. En tout cas, Simon n'est pas handicapé de ce côté-là. Comme tout juif, il se reconnaît fièrement le fils de ses ancêtres, le fils d'Abraham. Dans le sens spirituel, Simon veut dire celui qui écoute, celui qui obéit. C'est Alcuin, un théologien du 8e siècle, qui était un ami et un conseiller très proche de Charlemagne, qui le dit. Simon veut dire celui qui écoute et qui obéit, et Jean signifie la grâce. Cela nous fait voir, dit Alcuin, que si Pierre aime le Christ et l'aime d'un amour réel et ardent, ce n'est pas à cause de ses mérites à lui, Pierre. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est très simple, mais c'est très beau de rappeler. Pierre, dans ses propres fibres humaines, connaît très bien que s'il aime le Christ, c'est parce que le Christ lui donne de l'aimer. Ce n'est pas avec ses propres qualités à lui qu'il est capable d'aimer le Christ. Et il peut rendre grâce, il peut être dans la joie de Dieu en reconnaissant, et c'est le nom de Jean, la grâce, que cet amour dont il peut aimer lui vient encore de Dieu. Et nous-mêmes, quand nous aimons, rendons grâce à Dieu. Cela vient de l'action de la grâce de Dieu en nous. Et en aimant le prochain, Pierre manifeste son amour envers le Christ. C'est dans la relation que Pierre a avec toutes les brebis du Seigneur que va se montrer l'amour que Pierre a pour le Christ. Qui est ce prochain ? Le texte parle des brebis, d'abord des agneaux, puis des brebis, j'y reviendrai. Il semble qu'ici ce soit ceux qui ont commencé déjà d'appartenir au Christ. le baptême, et tous ceux que Dieu appelle, c'est-à-dire l'humanité sans aucune exception. En tout cas, Paul parle du prochain, du frère, celui pour qui le Christ est mort, celui qui a tant de prix pour Dieu que c'est la mort même du Fils de Dieu qui peut le ramener à la vie. Celui qui, pour qui Dieu ne désespère jamais. Voilà le prochain. Et Pierre va donc manifester son amour envers le Christ en aimant le prochain. Saint Augustin le dit dans une formule admirable. Rien, dit-il, ne nous rend plus dignes de la grâce de Dieu que le soin que nous prenons du prochain. C'est simple, ça. Ce qui nous rend aptes, plus ouverts, plus réceptifs à la grâce de Dieu, c'est le soin que nous prenons du prochain. En entendant Jésus lui parler de l'amour personnel qui existe entre son ami et lui-même, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre est comme poussé encore un peu plus avant pour aimer l'Église, pour servir l'Église, pour aimer et servir ceux qui appartiennent à Dieu par grâce. C'est comme si Jésus disait à Pierre, et je reprends ici les expressions de saint Augustin, « Si tu m'aimes, sois à la tête de tes frères. Montre maintenant cet amour dont tu as fait preuve constamment. Offre-toi tout entier vraiment pour mes brebis. Donne-leur cette vie que tu étais prêt à donner, avais-tu dit pour moi. Donne-leur ta vie que tu étais prêt à donner, avais-tu dit pour moi. » On se souvient que Pierre avait dit, je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. Et Jésus demande cette chose-là trois fois à Pierre. Par trois fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Souvenons-nous qu'au baptême, on nous a demandé trois fois l'acte de la foi. Est-ce que tu crois ? Je crois. Et je suis plongé dans le mystère de l'amour jusqu'au bout de Dieu pour nous, la mort du Christ. Est-ce que tu crois ? J'y crois. Et je l'ai dit déjà. Ben, tu es plongé de nouveau. Est-ce que tu crois ? Oui, j'y suis plongé de nouveau. Et dans la première, la plus antique profession de foi, l'attache à l'Église est inséparable de la foi au Saint-Esprit. Non, à Rome, on ne dit pas « crois-tu à l'Esprit Saint ?» et puis ensuite « crois-tu à l'Église ?» Il n'y a pas une quatrième demande. Ça. Non, non, non. Il y a « crois-tu au Père ?» Créateur de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. « Oui, j'y crois. » Puis tu es plongé. « Crois-tu au Fils unique, né de la Vierge Marie ?» J'y crois. « Crois-tu à l'Esprit Saint dans la Sainte Église ?» J'y crois, je suis plongé. Donc, par trois fois aussi, on nous a demandé si nous aimions vraiment. Alors dans le texte de saint Jean, on se souvient que la troisième demande, Pierre est peiné. On nous dit que il est peiné que pour la troisième fois, le Seigneur lui ait demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors on peut se poser la question, que veut dire cette peine de Saint-Pierre, de Simon ? Saint Jean Chrysostome et saint Augustin ont une belle réponse à cette question. Ils disent que Pierre tremble, qu'il frémit, qu'il est peiné, parce qu'il sait très bien qui ne peut pas compter sur ses propres forces à lui. Il connaît sa faiblesse. Il connaît qu'il est pécheur et qu'il ne peut plus mettre sa confiance en lui-même, mais en Jésus seul. Sans lui, Jésus, Pierre n'est pas capable de se relever. Et il se souvient de ce moment de la nuit de la Passion où un coq a chanté, qui a percé les ténèbres et la solitude de la nuit pour rappeler à Pierre que Jésus avait dit « Je prierai pour toi pour que ta foi ne sombre pas. » Donc Pierre sait à tout jamais que c'est la grâce de Dieu qui l'a sorti de la mort. Au fond, Pierre a trahi parce qu'il n'a pas osé se reconnaître disciple de Jésus. Pierre n'a jamais dit qu'il n'aimait pas Jésus à la Passion, il n'a jamais dit qu'il n'aimait plus son ami. Non. Simplement, c'est une trahison très grave, il a préféré se cacher par peur de la mort, par peur d'être arrêté comme Jésus, par peur de souffrir comme Jésus. Il a été arrêté par sa peur. Non, je ne connais pas cet homme. Bon, c'est pas d'abord un... bon, bien sûr que c'est un mensonge, mais enfin bon. Non, enfin, je ne veux pas dire que les mensonges, ce n'est pas grave, mais derrière ce mensonge, il y a surtout la peur. Et il y a le refus de se reconnaître ou de manifester, jusque dans la livraison de sa vie, qu'il est disciple de Jésus. Il ne s'agissait pas de le clamer comme cela. Il s'agissait, à ce moment-là, de signer par sa mort qu'on était vraiment disciple de Jésus. Donc Pierre tremble parce qu'il sait désormais, après la Passion, qu'il ne peut plus compter sur ses forces à lui pour tenir sa parole. Pierre avait promis, juré ses grands dieux qu'il irait jusqu'au bout, et il sait que ça n'est pas vrai, que sans Jésus, il ne va pas jusqu'au bout. Sans lui, Jésus, nous ne sommes pas capables de nous relever de nos chutes. Peu comme un enfant qu'on vient reprendre par la main et qui est relevé, encore que les enfants quelquefois se relèvent tout seuls. Sans lui, Jésus, nous ne pouvons même pas aimer. C'est auprès du Christ que nous cherchons refuge. Voilà pourquoi Pierre, cette troisième réponse, je reprends le texte exact, dit « Seigneur, tu sais tout. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Tu connais toutes choses. Tu connais les secrets du cœur pour le présent et pour l'avenir. » Le Seigneur nous demande de donner un témoignage de notre amour en indiquant aux autres le lieu de la paix. Soit le bon pasteur conduit mes brebis vers un lieu de repos. Donner notre témoignage, c'est indiquer par notre vie aux autres où se trouve le bon pâturage, pour prendre l'image pastorale. Disons, où se trouve le lieu du vrai rassasiement de la grande soif humaine. Où se trouve le lieu où l'homme va sortir de ses impasses, où se trouve le chemin de la vie, où se trouve la joie retrouvée, où se trouve la réconciliation avec les frères, où se trouve finalement l'avenir du monde. Sois le pasteur de mes brebis, dit Jésus à Pierre, et sois-le dans le même mouvement de charité qui me conduit à t'aimer, moi Jésus. Sois ce pasteur dans le mouvement même qui me conduit à donner ma vie pour mes brebis et pour toi, Pierre. Et désormais, ne conduis plus mes brebis avec la peur qui t'a fait renier le vrai pasteur, mais conduis-les par un amour désormais confiant, car l'amour chasse toute peur. Si nous nous interrogeons, mais Seigneur, qui sont ces agneaux, ces brebis que tu me demandes d'aimer? Où sont-elles tes brebis? Où sont-ils tes agneaux? Alors nous pouvons répondre que les agneaux sont ceux qui commencent à faire partie du troupeau et que les brebis sont ceux qui ont déjà atteint une certaine unité avec l'Église tout entière. Paître les brebis voudrait dire fortifier la foi pour qu'on ne puisse plus défaillir dans les tempêtes. Paître les brebis et pas seulement les agneaux qui commencent à croire, c'est tellement plus facile pour les agneaux qui commencent à croire. Paître les brebis, c'est aussi s'opposer aux ennemis des brebis avec la seule arme de l'amour, de la charité. C'est mettre un rempart d'espérance là où certains veulent édifier des murs de division. Ou mettre une porte plutôt d'espérance à l'endroit des remparts de division. C'est ramener ceux qui s'égarent. Alors bien sûr, certains ont beaucoup interprété ce texte en pensant au successeur de Pierre, au pape, puis après aux collaborateurs des évêques, mais toute parole d'évangile s'adresse évidemment à tous. Je veux dire, le contenu d'amour qui est présent dans ce dialogue entre Jésus et Pierre, c'est le contenu d'amour que le Seigneur veut mettre entre chacun de nous et lui. Il n'y a pas de degré, bien sûr, comme si le Seigneur réservait son amour pour quelques-uns. Non, il est personnel pour chacun, donc il est unique pour chacun. Et encore une fois, ce qu'il donne à Pierre, il le donne à travers la personne de Pierre pour toute l'Église. Et le pape actuel, ô combien, vit magnifiquement ce rôle pastoral. Il ne se cache pas quelque part pour goûter les joies des délices avec le Seigneur seul, en se protégeant contre le monde. Non, ce n'est pas le style du pape. Non, non, pas du tout. Et ce n'est même pas du tout le style de n'importe quel apôtre. Avant de nous demander dans quel amour le Christ entraîne-t-il ceux qui veulent résolument l'aimer, écoutons saint Augustin nous indiquer la conversion à vivre pour aimer. Car souvent nous aimons bien plus pour ce que cela nous apporte, et cela n'est justement pas du tout l'amour. J'espère avoir... Oui, voilà. Le texte de saint Augustin. Ceux qui paissent les brebis du Christ dans l'intention d'en faire leurs propres brebis, plutôt que de les attacher au Christ, ils s'aiment eux-mêmes au lieu d'aimer le Christ. Ils sont conduits par le désir de la gloire, de la domination et de l'intérêt, plutôt que par celui de l'amour. L'amour ne se propose que d'obéir, de secourir et de plaire à Dieu. Gardons-nous donc de nous aimer nous-mêmes au lieu d'aimer le Christ. Et en paissant les brebis du Christ, cherchons les intérêts du Christ plutôt que les nôtres. Celui qui s'aime au lieu d'aimer Dieu ne s'aime pas véritablement, car puisqu'il ne peut vivre par lui-même en aimant que soi, il se condamne à la mort. Ce n'est donc pas s'aimer véritablement que de s'aimer d'un amour qui fait perdre la vie. Lorsqu'au contraire on aime celui qui nous fait vivre, en ne s'aimant pas soi-même, on s'aime beaucoup plus, puisqu'on refuse de s'aimer pour aimer davantage celui qui est pour nous le principe de la vie. Voilà, je viens de lire un commentaire de saint Augustin sur le dans le traité sur saint Jean. Et il continue à un autre endroit. Il s'est trouvé des serviteurs infidèles qui ont divisé le troupeau du Christ et qui, par leur rapine, se sont amassés une certaine fortune. Vous les entendez dire, ce sont là mes brebis. Que venez-vous faire près de mes brebis? Prenez garde que je vous retrouve parmi mes brebis. Si nous tenons nous-mêmes ce langage et qu'à leur exemple nous disions aussi mes brebis, c'en est fait. Le Christ a perdu ses brebis. Ça, c'est vraiment du grand saint Augustin. Celui qui dit mon église, ma paroisse, ma communauté, ben finalement, c'est comme s'il disait le Christ a perdu ses brebis. C'est très important cela. Un petit mot avant de continuer sur dans quel amour, dans quel genre de vie nous entraîne celui qui nous demande de l'aimer. Nous pourrions être attentifs à la manière avec laquelle nous parlons de ce qui nous est le plus cher. Est-ce que nous en parlons pour que les autres n'aient aucun accès à ce qui nous est cher, comme si nous devions réserver pour ceux qui nous sont chers des choses que nous ne donnerions pas aux autres? Ou est-ce que nous pensons comme Paul que ce que nous avons reçu par grâce n'est pas notre propriété, mais un don de Dieu à partager? Alors nous ne dirions plus jamais, par exemple, ma communauté. Alors bien sûr, dans un sens facile, on peut toujours le dire, mais attention aux mots, M-O-T-S. Le Christ utilise donc l'adjectif, c'est comme ça qu'on dit possessif, pas l'adjectif, mais le pronom possessif, je ne suis pas du tout bon en grammaire. Mon, ma, mais, c'est quoi? C'est un adjectif, merci. Vous voyez à quel point de décrépitude on se trouve. Hein. Il dit mes brebis, c'est-à-dire que lui seul, mais le moi de Jésus est divin. Le moi de Jésus n'est pas un moi possessif, à la différence du nôtre. Le moi de Jésus est détaché de lui-même absolument, puisqu'il est divin. Il n'est que source de vie. Donc, quand nous disons que les choses sont à nous et qu'il ne faut pas que n'importe qui vienne y entrer parce qu'ils n'ont pas le droit de venir voir ce qui se passe, nous nous tenons comme propriétaires. Et c'est pourquoi souvent d'ailleurs, je corrige personnellement dans les textes qui me sont proposés quelquefois, souvent il y a notre église. Ben oui, peut-être, c'est déjà mieux que mon église. Mais il vaut mieux dire l'église, ou l'église de Dieu, ou l'église du Christ. Mais même le « nous », pour ceux qui nous entendent, peut renvoyer à quelque chose qui font qu'ils se sentent exclus. Par exemple, si je suis dans une entreprise, mettons le, je ne sais pas moi, par exemple, la BNP, et que je suis salarié de cette entreprise, quand j'entends un salarié de cette entreprise, la BNP, dire « notre entreprise », je me sens exclu, quoi. En tout cas, inférieur, si je ne suis pas salarié de cette entreprise. Donc même le « nous » peut être dangereux, vous voyez dans quel sens je le dis. Il ne peut être qu'une invocation. Et quand nous professons dans l'Esprit Saint notre Père, c'est évidemment pour dire qu'il est le Père de tous les hommes. Donc, je repense à un épisode, puis après je vais avancer un peu. C'était à l'époque où il y avait eu l'affaire Gaillot dans l'église. S'il était là, je lui demanderais d'en parler lui-même. Oui, tant pis pour ceux qui connaissent les plus jeunes, ça n'a pas beaucoup d'importance cette histoire. Enfin bon, c'est déjà passé il y a longtemps, c'était dans les années 90. Oui, 95 peut-être, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Enfin bref, vous aviez un certain nombre de gens qui avaient dit que parce qu'on n'écoutait pas assez cet évêque, l'Église allait à sa perte, quoi. On ferait mieux d'écouter les prophètes, etc., etc., etc. Et du coup, les gens avaient écrit des articles, oh, vraiment, j'ai mal à mon Église. J'ai mal à mon Église. C'était la grande formule à l'époque. Hein. Voilà. Et le père Coffi, c'était son dernier texte avant de mourir d'ailleurs, qui était un grand théologien, avait écrit une petite plaquette à la demande de tous les évêques de France, alors qu'il était très fatigué. Et on lui avait dit, les évêques lui avaient dit, il faut que tu écrives encore quelque chose sur l'Église en ce moment. Et il avait justement repris cette expression pour dire qu'elle était fort malheureuse. Que si quelqu'un pouvait dire j'ai mal à mon Église, c'est Jésus seul. C'est-à-dire, je souffre pour mon Église. Mais je souffre avec elle. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut dire, oh là là, mais tu ferais bien de te réformer, ça irait mieux dans le monde. Quoi. Aujourd'hui, on est en plein là-dedans, en ce moment. C'est très très bien d'entendre toutes les critiques, c'est tout à fait bien. Elles sont d'ailleurs quelquefois fort bien fondées. Sauf qu'il ne nous est pas demandé simplement de joindre notre voix, V-O-I-X, à celle de ceux qui regardent l'Église de l'extérieur, mais à nous convertir avec toute l'Église, ce qui est une autre paire de manches. Et qui est infiniment plus intéressant, plus passionnant et surtout plus durable. Voilà. Alors, nous nous posions cette question ensuite en demandant à Pierre, à Simon, fils de Jean, de prouver, de manifester son amour dans le fait d'aimer les brebis. C'est d'aimer non pas ceux qui l'attirent vers lui, Pierre, mais d'aimer ceux et celles pour qui le Christ a livré sa vie. Nous pouvons nous demander dans quel genre de vie l'amour du Christ nous entraîne-t-il? Qu'est-ce qui est radicalement changé quand nous faisons de toute notre vie une écoute de cette question, aimes-tu le Christ? Ou le Christ nous demandant, est-ce que tu m'aimes? Alors je vais simplement esquisser un début de réponse parce que c'est l'objet de toute la retraite. Alors je suis désolé pour ceux qui ne suivent pas la retraite, et bien voilà. Voilà, c'est tant pis pour eux. Non, pardonnez-moi. On peut encore s'inscrire. Non, c'est, pardonnez-moi. Je voudrais juste commencer par le plus important. Il est très surprenant que Dieu nous demande de l'aimer. On est tellement habitué à dire, mais je dois aimer Dieu de toutes mes forces, c'est-à-dire sans tricher. L'aimer en vérité, c'est-à-dire le placer dans mes affections, dans ma volonté, dans l'occupation de mes énergies, au premier rang. Et le pape disait encore dimanche, à l'homélie de la béatification, tu ne peux pas aimer Jésus à 20%. C'est tout ou rien. Tu aimes un moment où tu n'aimes pas. On ne peut pas dire à Jésus, comme n'importe qui d'ailleurs, « Ouais, je t'aime bien, puis je m'en vais, quoi. » Je t'aime bien, c'est pas aimer, ça. En tout cas, pour revenir à des choses plus importantes et plus belles encore, pourquoi Dieu, qui est l'amour infini, pourquoi le Seigneur, en qui est la plénitude de la vie, et qui n'a pas besoin de se réaliser dans la relation avec un autre que lui-même, nous demande-t-il de l'aimer? Vous voyez, c'est quand même une question importante, ça. D'où vient que Dieu demande, pas seulement qu'on aime les autres, mais qu'on l'aime lui? Alors, on fait remarquer que c'est le premier grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et c'est bien le Saint-Esprit qui inspire l'auteur biblique. Quand l'auteur biblique nous dit, voici le premier, le grand commandement. Il n'y en a pas d'autre. à côté de celui-là. Les autres ne font pas nombre avec le grand commandement. Et l'amour du prochain n'est pas un deuxième commandement qu'il faut juxtaposer au premier. Ah non! Non, c'est le deuxième commandement qui est hissé à la hauteur du premier, ce qui n'est pas la même chose. Bref, pourquoi Dieu veut-il être aimé? Alors, il y a des questions qui appellent des réponses immédiates. À quelle heure est la messe tout à l'heure? 11 heures. Voilà, question simple, réponse immédiate. Une fois qu'on a la réponse, on n'a plus besoin d'entendre la question. Et bien, il y a des questions qui sont plus difficiles, qui demandent la recherche de longues années de travail, par exemple, pour devenir professeur de mathématiques dans une grande école. Eh bien, quelle qualité faut-il? Eh bien, il faut d'abord travailler beaucoup. Et puis, il faut acquérir des compétences, et puis des compétences pédagogiques, et puis etc., etc. Enfin, au bout d'un moment, on est professeur de la grande école, on n'a plus besoin de se poser la question « Comment je peux faire pour devenir professeur de mathématiques ?» Et puis, il y a des questions qu'il faut entendre avec beaucoup de profondeur, parce qu'on n'a jamais fini de les entendre. Bien, cette question de l'amour de Dieu est une question qu'il ne faut jamais terminer d'écouter. Nous n'avons jamais fini de découvrir tout l'amour qui est contenu dans cette question de Jésus à Pierre. Nous n'avons jamais fini de découvrir l'immense relation qui existe entre l'Église et l'amour de Dieu, entre l'Église et notre vocation à aimer, entre l'Église et notre soif de ne pas être à côté de l'amour. Celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas son prochain qu'il aime, qu'il voit, est un menteur. Mais je reviens à cette question première. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'aimer, et pas simplement d'aimer, mais de l'aimer lui? Alors je ne veux pas résumer toute la retraite, parce que sinon ceux qui sont inscrits à la retraite pourraient partir. Et, en fait, on n'aura jamais fini d'écouter cette question. Je dis simplement une chose là-dessus, c'est que j'ai connu personnellement quelqu'un qui était un ami de la philosophe Simone Weil, qui avait un handicap très lourd parce qu'il était aveugle, c'est pas facile sûrement d'être aveugle, et qui a été prêtre, religieux, et il a été tellement saisi par cette question pendant son noviciat qu'il n'a jamais cessé de chercher la réponse. Toute sa vie a été « Je voudrais comprendre mieux pourquoi je suis appelé à aimer. » Et pas simplement à aimer en général. C'est déjà quelque chose d'être dans une santé minimale pour être en capacité d'aimer, quoi. On le sait très bien, ça ne va pas de soi. Mais pas simplement aimer en général, aimer la vie, comme on dit, aimer les petits oiseaux, aimer les gens, tout ça. Bon. Non, enfin oui, c'est déjà pas mal, hein, parce que quand on n'est pas du tout en forme, on n'aime plus personne, plus rien, on ne s'aime même plus soi-même, et on finit tristement dans un isolement mortifère. Bon. Donc, c'est déjà pas mal d'être ramené quand même dans un climat d'amour. Ne serait-ce que, par exemple, devant la création. Être capable encore de voir les limites du pouvoir des hommes sur la création pour aimer la création, c'est déjà pas mal. Ne pas nous désintéresser, par exemple, de tout ce qui se cherche aujourd'hui en termes d'écologie. Je ne dis pas du tout pour en faire une religion. Enfin, il y a là une indication que nous voudrions bien continuer à vivre, quoi, et permettre à nos descendants de vivre, ce qui est quand même déjà une forme d'amour. Enfin bref, le Seigneur ne demande pas simplement qu'on aime, ou qu'on aime le réel, mais qu'on l'aime lui. Et donc ce prêtre avait entendu cette question lors de son noviciat et a passé toute sa vie à chercher une lumière pour y répondre. Et il a trouvé cette lumière progressivement, et puis il l'a approfondie tout le temps dans la relation de Jésus avec les disciples. Comment Jésus introduit ses disciples dans les secrets du Père. Comment Jésus prend ses disciples tellement par le meilleur qu'il les arrache à leur petitesse. comment Jésus n'a pas peur de s'exposer au regard des disciples et de la foule pour manifester l'amour qui l'anime. Comment Jésus finalement a osé demander à quelqu'un qui l'avait renié 3 fois de devenir celui sur qui il allait se reposer pour conduire l'Église. Voilà, enfin, on y réfléchira pendant toute cette retraite-là. Voilà, on va simplement donc finir cette méditation en relisant le texte de Saint Jean. Je vais le relire lentement, peut-être avec ce qu'on vient de méditer, cet évangile va pouvoir de nouveau parler au cœur. Et je le reprends volontairement un tout petit peu plus haut que simplement le dialogue « Pierre, m'aimes-tu ?» Donc c'est au chapitre 21 de Saint Jean. Le matin déjà venu, Jésus était sur le rivage. Pourtant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Les enfants, n'avez-vous pas du poisson ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » À ces mots, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant le filet de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il le leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la 3e fois que Jésus ressuscité se manifesta aux disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut peiné de ce qui lui est dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.